que le Seigneur bénisse aussi ces paroles. Amen. Pour prendre le même verset que je partais sur la série, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, nous avons vu donc dimanche matin le mot garder. C'est possible parce que Dieu nous garde. Dieu nous demande de garder les yeux fixés sur Christ, de garder sa parole. Apocalypse chapitre 3. Tu as gardé ma parole. Tu étais faible, mais tu as gardé ma parole. Est-ce que nous avons vu aussi toujours le mot garder, c'est que pour garder les choses, non pas pour garder, notre vie avec Dieu, notre théologie, notre expérience avec Dieu, ça fait un dépôt dans notre cœur. Et nous avons vu que le mot dépôt, non merci, le mot dépôt, il est composé donc de deux mots. Le premier qui signifie près de nous, et le deuxième c'est pour un usage futur. Près de nous pour un usage futur. C'est vraiment fabuleux. Parce que quand on pense par exemple à l'Éternel qui dit donc dans la loi mosaïque, garde la loi qui est près dans ton cœur. Près de toi dans ton cœur. C'est encore la même pensée, près de nous pour un usage futur. Aujourd'hui, j'aimerais parler donc de le mot cœur. Garde ton cœur en ayant le même background, le même arrière-plan de toujours garder, mais garder quoi, veiller sur quoi, sur notre cœur. Alors le cœur, c'est très vaste. Je pense que ça doit être un des mots le plus utilisé dans la Bible. Le mot cœur en hébreu, ça nous parle de leb, ça nous veut dire. Alors regardez ce que tout ce qui signifie, est-ce qu'on associe au cœur. Cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu, en lui-même, de son gré, habilité, intelligence, courage, décourage, se réjouir, âme, esprit, siège des appétits, siège des émotions, des passions, le signe de courage, le siège de courage, etc., etc. Juste le même mot, cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que ta parole soit dans ton cœur. Un cœur de pierre, un cœur de chair. On a énormément de phrases, des versets, des pensées de Dieu vis-à-vis de cœur. Par exemple, pour vous donner juste, regardez dans l'Ancien Testament. Essayez peut-être juste de noter les références parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le cœur est corrompu, source de péché, Genèse 6, 5. Psaume 51, ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Deux contextes différents. Dieu, en effet, pour régénérer le cœur, Ézéchiel 11, 19, Ézéchiel 36, 26. Le cœur qui rend capable d'obéir à sa loi, etc., etc. Les émotions, la joie, la tristesse, les passions. Regardez, il est symbole de l'amour, Proverbe 4, 23, ce qu'on disait. Le cœur est le siège de la volonté, Exode 14, 5. En fait, c'est à l'infini que de cœur. On peut partir du début de la Bible. Qu'est-ce que s'est passé dans le cœur? Comment Adam et Ève se sentaient dans leur cœur? Genèse chapitre 2, lorsque l'Éternel venait dans le jardin pour les garder et les cultiver. En tout cas, la Bible n'en parle pas, mais je ne pense pas que leur cœur était rempli d'effroi, de peur, de honte, culpabilité, tout ce qui allait. En fait, ils étaient super géniaux. Chapitre 3, à cause du péché, le cœur, en fait, était à l'envers. C'est un cœur qui est devenu mauvais, un cœur animé par le péché, un cœur de pierre, un cœur rebelle, un cœur méchant, qui peut le connaître, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est au milieu de toutes ces choses-là que nous avons de cœur, il y a une particularité. Le cœur, je ne suis pas biologiste, encore moins médecin, mais c'est la partie la plus, on va dire, le point central d'un corps. Par exemple, certains spécialistes, j'avais lu ça, ils disent que quelqu'un qui meurt de hypothermie, de froid, il commence dans l'extrémité des bouts de doigts à avoir froid, et même le cerveau, il s'arrête. Et la dernière partie, en fait, c'est le cœur, ce qui est logique, puisque c'est le cœur qui donne des pulsions pour pousser le sang, etc. Donc c'est quelque chose quand même de plus que vital, le cœur. Et comme les athlètes, comme c'est conseillé de nos jours aujourd'hui. Il faut qu'on prenne soin de ce cœur-là. De prendre soin de ce cœur physiquement, en faisant du sport, faisant attention à l'alimentation, ce qu'on boit, etc. Mais plus que ça, à notre cœur aussi intérieur, comme nous avons dit, c'est que dans le cœur, il y a aussi le siège des pensées, le siège des émotions. C'est-à-dire que dans le cœur qui n'est pas physique, impacte le physique. C'est vraiment un peu particulier. Et ce cœur-là qui impacte le physique, on doit faire attention. Je vais vous prendre un exemple. Un cœur qui est rempli de chagrin émotionnel, ça impacte la tristesse dans son cœur physique et qui a un impact sur le physique complet envers les autres. Un cœur qui a peur, en fait, c'est quelqu'un qui physiquement, il a peur également. Quelqu'un qui est courageux dans son cœur, ce qu'on appelle vaillant, etc., il est aussi, en fait, l'intérieur reflète l'extérieur. Nous, on ne peut pas voir le cœur physiquement de vous, je ne peux pas le voir. Mais par contre, votre être extérieur me donne, même si je n'ai pas le regard de Dieu, il faut le reconnaître, me donne un aperçu de qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Par exemple, si je sais que ta manière de te comporter envers moi quand tu m'invites chez toi et que tu es aigri, ah, ça me reflète ton cœur, c'est que ton cœur n'est pas sincère envers moi. Tu vois? Ou envers même, tu n'auras même pas le plaisir de m'inviter. En fait, tu ne le fais pas pour d'autres raisons. C'est comme certaines personnes qui... Bah, vous vous rappelez par exemple quand Notre-Dame a brûlé à Paris? Les gens, ils étaient émerveillés au niveau de tous les riches qui jouaient avec des sommes astronomiques. Celui qui donne le plus, celui qui donne le plus, celui qui donne le plus. Bon, résultat de course, c'est qu'ils ont quasiment, ils ont donné très peu. Mais ça, c'est un autre domaine. Mais je veux dire par là, c'est que la manière de nous-mêmes, si nous sommes enthousiasmes pour quelque chose, on peut aussi influencer celui qui est à notre côté. Si notre cœur est rempli de peur, celui qui est à côté va la sentir et va être aussi rempli de peur. Je vous donne un exemple. 1 Samuel chapitre 17. Vous voyez quand il y a Goliath avec l'armée du Philistin qui vient, comment dirais-je, il vient à Israël et puis lance un défi à Israël, etc., etc. Il était comment le cœur de roi Saül? Rempli de peur. Et de son peuple, il était comment? Pareil. C'est atroce. Ça veut dire que notre état à l'intérieur de notre cœur, en fait, on peut influencer les autres. Surtout si nous avons des postes de dirigeants, des postes à responsabilité, des ministères, peu importe le ministère. Notre manière d'être à l'intérieur, ça se reflète sur l'extérieur. Vous savez, par exemple, dans le leadership, il disait, il y a toujours l'ombre d'un leader. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ça. L'ombre d'un leader, ça veut dire que si le leader montre l'exemple, ceux qui sont plus bas hiérarchiquement, on dit ça, hein, plus bas hiérarchiquement, vont suivre le leader parce que le leader montre l'exemple. Par contre, si le leader ne montre pas l'exemple, c'est pas eux qui vont le faire. Tout simplement, c'est la logique. Pourquoi je vais le faire si mon responsable, mon patron ne le fait pas? Pourquoi je dois garder les comptes clairs, transparents, tout ça, si lui, il ne le fait pas, si lui, il magouille, etc. Donc, encore une fois, notre attitude intérieure, ça impacte les autres. Le contraire de David, regardez, toujours dans le 1 Samuel chapitre 17, David, il va combattre Goliath. Il est courageux. Son attitude dans le cœur, il sait qu'il a vécu des choses avec Dieu, comme nous avons parlé le dimanche passé. Il a gardé le bon dépôt. Il sait l'expérience qu'il a avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, il a mis en action. Toi, mon gars, tu vas perdre la tête. Qu'est-ce que s'est passé avec le peuple? Ben, ils ont suivi David. Et ils ont eu une grande victoire. Alors, ça montre aussi que le peuple ne savait pas trop qui suivre. Est-ce que je suis la peur ou est-ce que je suis le courage? Est-ce que j'ai des convictions ou est-ce que je n'ai pas des convictions? Mais c'est flagrant quand même. Et toujours un autre passage. Jonathan et son serviteur, celui qui portait les armes, ils ont un cœur de vaillant. Ils ont la foi, deux chapitres plus loin. Et puis ils disent, voilà, l'Éternel peut donner la victoire avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Qu'est-ce que s'est passé? Jonathan et son serviteur, il va dans le camp des Philistins. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes qu'ils ont tuées, c'est pas grand-chose. Mais les peuples qui étaient cachés, ben, ils sont allés aussi pour massacrer l'autre peuple, pour massacrer l'ennemi. Je me suis, c'est une question que je me pose juste à l'instant. Comment ça se fait? Ils ont une victoire en suivant David. Ils ont une victoire sur les Philistins fabuleuse. Ben, encore une fois, ils se cachent encore dans les grottes avant que Jonathan fasse le pas de foi pour combattre les autres. Qu'est-ce que s'est passé? C'est vrai. T'as une victoire fabuleuse. L'ennemi, normalement, il a peur de toi. Pourquoi tu t'amuses à te cacher dans les grottes encore une fois? Ça n'a pas de sens. Je prends par exemple, regardez, ce que Samuel, 1 Samuel 10, verset 9. Dès que Saül, donc quand David a été loin, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Ça veut dire, c'est comme nous. Ézéchiel 36, 26, Dieu nous a donné un cœur de chair pour supprimer celui de pierre. Mais qu'est-ce que s'est passé avec ce gars-là? Dieu lui a donné un nouveau cœur. Pourquoi il vivait dans la peur? Pourquoi il vivait toujours dans la compétition, autant avec son fils, autant avec ses serviteurs, et des fois même envers lui-même? Première des choses, je pense, c'est parce qu'il n'a pas regardé au dépôt que Dieu a mis dans son cœur. Peut-être que le dépôt de Saül, c'est lorsqu'il rencontrait les prophètes qu'il commençait à louer le Seigneur. Il commençait à danser, il commençait à vivre pour le Seigneur. Parce que lorsqu'il faisait toutes ces choses-là, il n'était plus concentré sur sa peur. Dans le sens, Samuel a dit que je suis roi, mes serviteurs, ils savent que je vais être roi. Il n'était plus concentré sur ces circonstances parce qu'il dansait avec les prophètes à plusieurs reprises dans le même chapitre, 1 Samuel chapitre 10. Mais qu'est-ce que s'est passé après? Dieu lui a donné un nouveau cœur. Nous aussi, Dieu nous a donné un nouveau cœur à la conversion. Pourquoi beaucoup de chrétiens, ils peuvent dire, Seigneur, je te suivrai partout. Seigneur, je vais m'inscrire à l'institut biblique. Seigneur, je vais aller dans la mission là. Je veux témoigner de toi, comme Robert fait en ce moment. Qu'est-ce que s'est passé? Tu m'as donné un nouveau cœur. Pourquoi je ne vis pas selon le nouveau cœur que tu m'as donné et que je vis selon le cœur charnel? C'est ce que la Bible nous parle aussi dans le Nouveau Testament quand il parle de cœur. En Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que s'est passé? Et je crois qu'un des points, que ce soit pour Saül, comme pour nous, si notre cœur, on ne vit pas selon le nouveau cœur, c'est parce que nous avons oublié les expériences que nous avons eues de le passé avec le Seigneur. Comme je disais dimanche passé, le dépôt. Mais le cœur, il y a aussi une autre particularité. Je disais tout à l'heure, c'est que le cœur, ça reflète, notre extérieur reflète notre intérieur. C'est comme un miroir qui nous rend notre visibilité. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, en étant sincère chacun d'entre nous, la plupart du temps, on se voit nos défauts. On se voit parfois de l'arrogance que nous avons, parfois de l'orgueil, parfois des gens qui se moquent terriblement de Christ. J'ai vu tout à l'heure une vidéo au Brésil, pendant le carnaval, ils se sont moqués ouvertement de Christ, mais vraiment que le diable prenait Christ tout au long et qu'il le traînait par terre. C'est une vidéo, voilà, pendant le carnaval. Ben, le lendemain, il y avait une inondation, il y avait je ne sais pas combien de victimes. On ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est clair et net. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on se regarde dans le miroir, naturellement, on peut voir exactement ce que je disais tout à l'heure, de l'insécurité, de peur, des doutes. Est-ce que Dieu m'a réellement sauvé? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé dans ce domaine-là? Est-ce que Dieu m'a dit vraiment, prends cette direction-là et puis finalement tu vois qu'il n'y a que de l'opposition? En fait, quand tu te regardes avec le regard dans ton miroir naturel, tu ne verras que l'ancien cœur. Le cœur qui est méchant, le cœur qui est tordu, le cœur de pierre, le cœur qui insultait Dieu, le cœur qui ne glorifiait pas Dieu, etc., etc. Mais le cœur, garde ton cœur. C'est aussi, nous avons, une des manières, c'est avoir le miroir de Christ. plus précisément, comment Christ me voit. Vous avez déjà posé la question, comment Dieu me voit? Vous savez, je pense par exemple quelqu'un comme David, un roi, un homme selon le cœur de Dieu. C'est fabuleux. Mais lorsqu'il tombait dans la désobéissance avec Bathsheba, son cœur était brisé aussi. Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. Il ne se dit même pas, j'ai tué Uri et j'ai couché avec sa femme. Seigneur, mon cœur est brisé parce que j'ai péché contre toi. Tu es saint, Seigneur. À travers le prophète Nathan, tu as mis le miroir, c'est-à-dire la manière que toi tu me vois. Quand David y fait à la fin de son règne, le dénombrement en Israël, on voit ça dans les chroniques parce que Satan l'a incité, ça veut dire que Satan il est toujours là en train de piquer. Toujours en train de nous rappeler, mais hey, qui t'a dit que tu dois vivre dans ton nouveau cœur? T'es pas meilleur que les autres. Bref, il a fait le dénombrement. Et là, il y a un prophète qui vient. Il dit, David, ce que tu as fait, c'est nul. C'est hypocrite. C'est insensé. Ce n'est pas à toi de connaître le nombre de soldats que tu as sur ton règne. Puisque c'est moi qui te donne la victoire. En gros, David, tu t'es détourné de moi pour te concentrer sur ton orgueil, sur proud. Ouais, en anglais, je pense qu'il est plus profond. Hein. C'est vraiment ton arrogance. Fierté. C'est moi. Vous savez, comme le roi Nebuchadnezzar qui dit, c'est moi qui ai bâti toutes ces choses-là. Qui est Dieu pour m'enlever ma richesse, hein, mes hommes, mon or, mes femmes, mes enfants? Qui est Dieu? David, avec cette histoire-là dans le livre des Chroniques, on voit, y compris en 2 Samuel, le dernier chapitre, bah, c'est un peu, il regardait un peu son cœur naturel. Mais c'est là qu'on voit un cœur transformé qui vient, et il vient vers David et dit, t'as le choix entre trois choses. Soit tu fuis devant les hommes, soit, je sais plus la deuxième, tu vas fuir devant les ennemis, le deuxième je ne sais plus, et la troisième s'il va y avoir une peste en Israël. Bah, David a dit, bah, écoute, je suis attristé, tombons entre les mains de Dieu, car ses compassions sont grandes. Et lorsqu'il voit l'ange de l'Éternel dans le jardin, son cœur est brisé parce qu'il dit, Seigneur, c'est pas eux qui ont fait ça. C'est moi. Mais encore une fois, c'est pas juste que Dieu aime punir parce qu'il y a quand même 70 000 personnes ou 70 000 personnes qui sont mortes à cause de cette peste. Parce que David était un responsable. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi des responsables. Nous, on dit, ok, il n'y a que le pasteur, il n'y a que les anciens, il n'y a que les portiers, il n'y a que ceux qui ont des ministères qui sont responsables. Si ils shootent, s'ils font des bêtises, c'est pour leur pomme. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous responsables. Mais pour réaliser cela, c'est pas un message pour se condamner ou quoi que ce soit. Hein. Pour réaliser cela, nous avons besoin de miroir de Dieu, de regard de Dieu. Qui dit... Qu'est-ce que le Seigneur dit que je suis déjà naturellement? Lorsque j'ai le miroir de Dieu, à ce moment-là, je vais réaliser, Seigneur, je suis pécheur. À ce moment-là, je réalise, Seigneur, tu es là, et moi, je suis là, je ne peux rien faire. À ce moment-là, je vais réaliser que son amour, agapéo, il surpasse le péché. Sa grâce, elle surpasse le péché. La vie Zoé que Dieu nous met, elle surpasse, etc., etc. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons déjà ce cœur transformé. Dieu nous a déjà mis ce miroir devant nous aujourd'hui, dans le passé, il y a quelques années, à la conversion. Et ce miroir, ça nous a poussé, comme le livre des Galates qui nous dit, c'est un pédagogue qui nous amène à Christ. Ça nous a montré la noirceur de notre cœur, mais également ça nous a montré le chemin de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons aussi besoin de miroir au quotidien. Seigneur, comment tu me vois aujourd'hui? Ok, le roi Saül, tu lui as donné un nouveau cœur, il s'est perdu. À David, tu dis pas que tu lui as donné un nouveau cœur. Certainement, je pense, avec les expériences qu'il vivait dans le passé. Je prends quelqu'un comme Élie. Élie, il a un roi 18. Je vais vous lire les trois versets, c'est super drôle, façon de dire. Un roi 18, 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui je me présente devant Achab. C'est un homme qui a de courage. un cœur en disant, Achab, il me cherche parce que je prie pour pas qu'il pleuve pendant 3 ans. Il n'a pas eu une seule goutte. Bon, je vais aller moi me présenter devant lui. Quelqu'un qui est courageux. Dans le même chapitre, il y a la victoire, le mont Carmel. Vous savez, avec les 400 prophètes du Baal, et lui seul qui invoque l'Éternel. Regardez, chapitre 19, c'est juste un chapitre plus loin. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de chacun d'eux. » Et là, sauf qui peut. Un cœur courageux qui a la victoire quand même. J'aurais tellement voulu être là. Il se met à genoux, il construit l'autel, inonder l'offrande, inonder là. Et tout d'un coup, pff, le feu qui prend la totale. J'aurais tellement voulu être là. Et pourtant, quelqu'un l'a menacé. Et parce que cette personne-là, il a écouté cette personne-là, elle y a détourné son regard, le cœur courageux qui était centré sur Christ, sur Dieu, il s'est détourné sur son propre cœur naturel. Et son propre cœur naturel l'a conduit dans une grotte. Son propre cœur naturel l'a conduit même dans une mauvaise perception des choses que lui, il pensait connaître, ou il pensait même maîtriser. Parce qu'à 2 reprises, on voit au chapitre 19, il répondit, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Qu'est-ce que s'est passé? Quand même, t'as une victoire gigantesque. Et lorsque tu es concentré sur l'appel que Dieu a, sur la vision de Dieu, tout le reste, ce qui se passe autour de toi, le fait que tu es un seul prophète, etc., etc., c'est secondaire. Mais lorsqu'on se détourne, lorsqu'on change de miroir, on vient sur notre miroir naturel, c'est sûr qu'il peut. Et au départ, il était avec son serviteur, et après, non, on ne sait jamais si l'on veut ma vie. Donc j'allais me réfugier seul dans une caverne. Mais heureusement, Dieu est gracieux. Dieu est gracieux tout simplement parce qu'il vient et le nourrit à plusieurs manières. Et là, toujours au verset 13, il dit « Sors et tiens-toi sur cette montagne devant moi. » Je crois que c'est le verset 10. Je vais juste vérifier. C'est toujours un roi 19. Hein. Il dit « Sors, détourne ton regard de ton miroir naturel et regarde le miroir que moi, je te présente. » Et après ce miroir-là, Élie n'était pas du tout pareil. Son cœur, déjà, Dieu l'a repris en disant, premièrement, tu vas entre lui, lui et lui. Deuxièmement, tu as au verset 18, « Mais je laisse en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Ah, c'est pas pareil. Le miroir naturel me dit que je suis seul. Et le miroir de Dieu me dit, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant l'idolâtrie. Et aujourd'hui, lorsque je regarde dans mon miroir naturel en disant, Seigneur, je suis le seul de mon boulot à te suivre. Détourne ton regard sur le cœur, sur le miroir de Dieu, comment Dieu me voit. Et tu verras que oui, peut-être que tu te sens seul, mais tu ne le sais pas, parce que tu n'es pas celui qui sent le cœur. Moi, j'ai appris dans mon boulot que quelqu'un lisait la Bible. J'ai dit, c'est génial. J'allais chercher un cadre de plaque. Tout d'un coup, je vois une Bible en portugais, je dis, ah! Il faut que je m'enseigne à qui elle est cette Bible. Donc, je me suis enseigné, et en fait, ce collègue-là la lit tous les midis. Tu vois? Mon miroir naturel peut dire, oh là là, ton directeur, il est ce qu'il est, à l'envers de Christ. Tes collègues, ils sont peut-être superficiels. Mais lorsque je regarde le nouveau cœur qui reflète, le miroir de Dieu qui reflète mon nouveau cœur, je dis, Seigneur, là, il y a du boulot. Seigneur, là, tu vas intervenir. Je vais donner un exemple, c'est une histoire que j'avais entendue d'un prédicateur. C'est une marque de chaussures qui envoie 2 personnes dans un pays en Afrique. Le premier, il arrive et dit, oh là là, c'est une erreur, n'y allez pas. Il n'y a personne qui a des godasses. Tout le monde marche pieds nus, tout le monde a des sandales. N'y allez pas, vous allez vous planter, n'y allez pas. Et il y a le deuxième qui arrive, tout est excité, il dit, mais allons-y. On y va, il y a personne qui a des chaussures, on va faire une fureur là-bas. Personne n'a des chaussures. Deux miroirs différents. Et en fait, tout au long de la Bible, il y a beaucoup, presque tout le monde, parfois ils regardent leur miroir naturel. Je prends quelqu'un comme Pierre. On oublie que c'est un homme quand même que, oui, son cœur se battait encore. Mais lorsqu'il voit Jésus marcher, il dit, Seigneur, ordonne que je marche. Il gardait son regard sur Christ. Mais lorsqu'il regardait les vagues, lorsqu'il regardait la barque, lorsque peut-être qu'il regardait que lui-même marche sur l'eau, il a détourné son cœur sur un autre miroir, son miroir à lui, et il a commencé à couler. Mais j'aime ça parce que le cœur de notre Dieu, même si on coule parfois, il est toujours là pour nous relever. David, il a coulé dans l'histoire avec Bathsheba, mais le Seigneur l'a relevé. Élie, il a coulé avec cette menace de Jézabel. Le Seigneur l'a relevé. Je prends quelqu'un comme Paul, que pendant des années, il a suivi une école, peut-être qu'il est devenu, ce qu'il est devenu, mais le Seigneur l'a secouru. Il pouvait lui dire tout simplement, non, retour. Moi, t'as tué trop de chrétiens, allez, tire-toi, j'ai pas besoin de toi. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Le secours de notre Dieu est toujours là. Parce qu'il sait très bien que le cœur, c'est le plus important. Mais par-dessus tout, c'est ce miroir, le regard que Christ a sur notre vie. Si on prend un peu dans des exemples, on va dire, concrets, j'ai le choix. Il y a une difficulté qui arrive. Soit je regarde naturellement en disant, oh là là, encore. Soit je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? Peut-être que là-dedans, je vais me faire mal. Peut-être que là-dedans, je vais tomber. Peut-être que là-dedans, je vais perdre de courage. Mais si la promesse est tarde, attends-la. Elle va arriver. Nous, sur cette terre aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se moquer de nous parce que nous sommes chrétiens. Nous avons le choix soit de les regarder, soit de regarder ce miroir-là, soit de se dire, Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est pas le même effet dans notre cœur. Il y en a un qui peut nous décourager. Mais le miroir de Christ, le regard de Christ, sa parole, ses promesses, nous donnent le feu. Et après, même, ça nous fait comme Jérémie quand il disait, Seigneur, même si je me tais, ta parole brûle au fond de mon cœur. Et j'ai envie de la partager. Oui, autour de moi, il y a des situations compliquées. Il y a des gens qui vivent des choses catastrophiques, qu'on ne sait pas comment le faire. Et peut-être qu'on n'a même pas envie parce qu'on se limite à ce miroir. Mais lorsque nous avons le miroir de Dieu, lorsque nous avons le regard de Christ sur notre propre cœur, nous allons découvrir que nous sommes des nouvelles créatures. Nous allons découvrir que nous sommes pardonnés. Nous allons découvrir que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes la tête et non pas la queue, que nous sommes des enfants bien-aimés, que nous sommes dans le royaume de lumière, que nous sommes le sel, la lumière, ce que vous voulez, et que nous ne sommes pas obligés de vivre naturellement. Troisième point, ce que je pense aussi, même s'ils sont tous liés, lorsque nous vivons notre foi naturellement, elle se refroidira. Elle n'est pas renouvelée. Notre foi, ça doit être quelque chose, c'est pas toujours évident. On le sait très bien. Par exemple, quand le Seigneur te dit, pardonne à celui-là. Waouh, c'est dur. J'avais vu une vidéo, je parlais un peu dimanche matin. C'est un père dans le tribunal qui va voir celui qui a tué son fils et lui a dit, je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je te pardonne parce que Dieu a placé le miroir qui reflète mon cœur. Je te pardonne. Tu ne mérites pas, t'inquiète pas, je ne mérite pas non plus. Mais parce que je me tiens devant le regard, tout change. Vous vous rappelez par exemple, Zachée. ils montent dans l'arbre. Il y a le Seigneur Jésus qui passe. Il dit, Zaché, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Il est tellement heureux, il a un nouveau cœur. Et tout le monde, qu'est-ce qui commence? On commence à le critiquer. Oh là là, comment Jésus, et t'as vu, et puis ceci, et t'as vu, lui qui était collecteur, qui est devenu ami, qui vous donne. En fait, mais il y a une expression qui vient. Zaché, soutenez devant le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi mon miroir. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui me dis qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Et tout ce qui est autour, ça n'a plus d'importance. Zaché, si s'amuser à écouter tout ce qui tournait autour, il aurait eu honte, peur, et peut-être qu'il aurait foutu tout le monde dehors. Mais il se tenait devant le Seigneur. Il écoutait, Seigneur, parle-moi, toi tu connais mieux que moi. Tu es celui qui sonde mon cœur, même mon cœur, je ne peux pas le connaître. Mais parle-moi, Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Il y en a ces deux miroirs qui sont là, ou ces deux regards. Le naturel, charnel, cœur de pierre, etc., etc. Ou le spirituel, le tendre. Celui, c'est ça qui est fabuleux, c'est que le Seigneur nous a donné un nouveau cœur, que nous puissions l'aimer en retour. C'est comme si, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, j'observe ta parole parce que ta parole a touché mon cœur. Ta parole a porté des fruits dans mon cœur. Et la différence entre ça, parce qu'il y en a quelques-uns, je prends par exemple le roi Ézéchias, il est malade. Dieu lui donne une guérison miraculeuse avec le prophète Ésaïe. Et Ésaïe lui dit, le Seigneur lui dit à travers Ésaïe, je vais te donner encore 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 15 ans? Il y a des envoyés de Babylone qui viennent et dit, regarde tout ce que j'ai, naturellement. Tout ce que j'ai acquis. Et il va même encore plus loin, c'est vraiment tordu. Hein. C'est là qu'on voit que des fois le cœur, lorsqu'on se place, même en tant que chrétien, croyant, lorsqu'on se place devant le miroir naturel, il est vraiment tordu. Là, le prophète Ésaïe vient et il dit, qu'est-ce que ces hommes ont vu? Et il lui dit, tout. Il a été honnête. Et Ésaïe lui dit, tout ce que tu as montré, ça va partir à Babylone. Et regardez ce qu'Ézéchias dit. Hop, tant que ça n'arrive pas, tant que je suis vivant, tout va bien. Et en plus, il dit, la parole que tu as dite est bonne. Attends, tu penses pas à tes enfants? Quand même, quel est le parent qui met au monde un enfant? Il y en a. Normalement, tu es censé lui préparer un avenir. Là, tu es censé lui enseigner. On voit ça, je disais ça aujourd'hui dans 1 Chroniques chapitre 26, 27, 28. Je me régale avec les chroniques. Et David instruisait Salomon. David lui montrait les plans qu'il avait, toute organisation, que ce soit les chantres, les portiques. Il a montré à Salomon tout ce qu'il voulait faire. Il prenait du temps et il enseignait. Et Ézéchias, il dit, hop, tout va bien, tout baigne. Parce que je sais que je vais mourir tranquille. Mais je ne pense pas à l'autre. Qu'est-ce que s'est passé? Moi, je pense que là, le miroir, ça reflétait un peu son arrogance. Parce qu'on voit que Ézéchias était malade, de pied. On voit ça dans le Chroniques. Et il ne chercha pas l'Éternel. Waouh, c'est surprenant quand même. Un homme qui marchait avec le Seigneur, un homme qui avait un nouveau cœur. Mais il a laissé son arrogance, il a laissé son miroir, son regard naturel l'envahir. Et ne pas se laisser transformer. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Chapitre 2, ouais, c'est ça. Romains 12, 2. Mais soyez renouvelés dans votre pensée. Au quotidien. Au quotidien. Mais voilà, qu'est-ce que s'est passé? Et des exemples, il y en a. Et nous aussi, parfois, dans notre vie, nous sommes en danger. Lorsque nous détournons notre regard de Christ. Lorsque nous regardons le nouveau cœur avec notre regard naturel. Nous avons besoin du regard de Christ sur notre propre vie. Lorsque Christ dit, va, Je pense à Gédéon. Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Josué chapitre 1, 60-40. Je serai avec toi. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, dans toutes les épreuves, les étapes que nous vivons, parce que des fois, nous, en tant que chrétiens, on se dit souvent, c'est que les épreuves. Non, ça peut être les bons comme les moins beaux moments. Le Seigneur est là lorsque nous regardons à lui. Quand le Seigneur regardait Pierre, il s'est mis devant le miroir du Seigneur. Il a pleuré parce que son cœur a été brisé. Il dit, waouh. Finalement, le Seigneur m'aime bien plus que je peux penser. Finalement, la grâce de Dieu est bien au-delà des mots que je peux mettre. Finalement, la sainteté de Dieu, elle est bien plus élevée que moi-même je me suis fixé. Finalement, Seigneur, j'en sais rien. Mais voilà, gardez de près pour un usage futur le miroir, le cœur, le nouveau cœur. Et dimanche, je parlais car de là vient les sources de la vie. La clé, c'est de garder nos yeux sur Christ. C'est simple. Christ reflète notre cœur. Regardez quelques versets que j'ai notés, j'ai vraiment bien aimé. De Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh. En Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai combien j'ai été connu. Quand on parle « j'ai été connu », c'est on parle des relations. Quand on parle d'un homme et d'une femme, Ève connue, Adam connu, Ève, on parle de l'intimité. Et là, l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, le chapitre de l'amour, ça nous parle de cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Ça nous dit, voilà, Seigneur, oui, ça m'arrive à shooter. Ça m'arrive à tuer Belcheba. Ça m'arrive à faire le dénombrement. Ça m'arrive des galères avec mon fils Absalom. Ça m'arrive que d'autres personnes me maudissent. Comme le Benjamin, lorsqu'il fuyait son fils. Mais quel est ton regard? Vous voyez que, par exemple, quand David fuit Absalom, il y en a un des Benjamins qui le maudit. Il y a le sacrificateur Stadok et je ne sais plus le deuxième, qui vient avec l'arche en disant, David, on est là. Il dit, non. Faites demi-tour. Moi, dans mon miroir, je connais un Dieu. Ce Dieu-là, s'il veut que je revienne en paix pour revoir l'arche, je reviendrai. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait demi-tour. Ça, c'est une autre leçon, une autre pensée. Mais je veux dire par là, c'est que David, dans sa vie, Joseph, dans sa vie, je prends tout le monde dans la Bible, nous-mêmes, lorsque nous gardons les yeux sur nous-mêmes, c'est chaos. Lorsque nous gardons les yeux sur Christ, nous trouvons par la suite les sources de la vie. Et pour vous donner un petit avant-goût des sources de la vie, les sources de la vie, c'est le moteur qui nous anime. Dimanche, qu'est-ce qui nous anime? Mais la clé, et c'est pour ça que Proverbe 23, garde ton cœur par-dessus tout. C'est tellement précieux notre cœur. Comme je disais, de là vient le courage, de là vient la force pour se battre, de là vient le courage de pardonner, aimer, chérir, de ouvrir la parole aussi. Tout vient de cœur. Et cela est possible. Gardons ce qui est précieux. C'est précieux notre cœur. Et c'est pour ça que notre Dieu nous dit toujours, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. J'ai pas besoin de tes richesses. J'ai pas besoin de ton passé. J'ai pas besoin de ta maladie. J'ai pas besoin de tes souffrances ou tes excuses ou peu importe. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est suffisant. Oui, t'as été blessé. Oui, t'as vécu ce que t'as vécu. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Laisse-moi te donner un nouveau cœur, comme le roi Saül. Et maintenant, garde ton cœur par-dessus tout. C'est fabuleux. Garde, tout est lié. Garde ton cœur sur le regard de Christ, sur le miroir, sur le miroir. Je vous ai dit, sur le cœur, il y a tellement de choses à dire. Mais le cœur reflète. Quand je vois Betty, quand je vois Marc, Marion, quand je vois ce que je ne vois pas pour le moment, votre extérieur reflète votre cœur. Et on dit souvent cette expression, « t'as un beau cœur ». Vous avez déjà entendu cette expression ? Ou « t'as une belle âme ». Bon, c'est un peu mondaine, mais « ou t'as une belle âme ». Parce que ça se reflète. On ne peut pas voir. On ne va pas commencer à s'ouvrir les pecs pour voir le cœur. Parce que lorsqu'on voit le cœur, on voit un organe avec du sang, avec des nerfs, etc. Mais voilà, c'est précieux. C'est précieux. Et nous, au quotidien, c'est « Seigneur, détourne-moi de moi-même pour être centré sur toi. » Et à ce moment-là, et c'est notre vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle le chemin de une sanctification progressive, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans notre nouvelle vie, nous allons expérimenter des choses avec le Seigneur et ça nous fait un dépôt. Et lorsque l'épreuve est là, lorsque la difficulté est là, je me souviens, parce que le dépôt est là. Donc le cœur, c'est, voilà, c'est un reflet. Seigneur, je suis sauvé. Je veux que les autres voient. Seigneur, je veux parler de toi. Je sais que tout le monde me dit que tu es tellement différent. Tu es trop gentil. Tu es trop ceci ou cela. Seigneur, je veux que les gens voient ce nouveau cœur que tu m'as donné. Et cela est possible pour garder le zélé. Élie n'a jamais eu après d'autres soucis. Parce qu'il s'est remis. Ah, pardon. Pardon, Seigneur. J'ai oublié. J'ai pas pris le bon miroir. J'ai pas pris le bon miroir. J'ai pas pris le bon regard. Et là aussi, avec Élie, il y a aussi cette expression. Et Élie se tenait devant l'Éternel sur ce rocher. J'aime ça. Élie se tient sur Christ devant l'Éternel. Voilà ce qu'on doit faire. Le nouveau cœur, il est là. Regardant avec le regard de Christ. Et à ce moment-là, on expérimente au quotidien. On expérimente avec sa parole. Seigneur, je comprends peut-être pas ce mot théologique ou c'est, parle-moi. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous parle comme ce deux murmures avec Élie, un roi 10. Ça nous parle. Et ça nous fait une expérience. Et après, on peut dire comme Job 42, j'ai entendu, maintenant j'ai vu. J'aime ça. J'ai entendu, Seigneur, qu'il y a un autre miroir. Ok. Seigneur, je vois le nouveau miroir. Je vois ce que tu as fait de moi. Waouh. Je vais m'arrêter là. Je veux pas faire plus long. Ça ne sert à rien. Mais voilà. Gardons le cœur. Ah, le nouveau cœur que Dieu nous a donné. Gardons notre regard.